France Culture.
France Culture, question du soir, Antoine Dulster.
C'est une petite musique qui s'est installée depuis quelques années dans le débat public. L'écologie serait, ouvrez les guillemets, punitive, liberticide, inégalitaire, moralisatrice. Autrement dit, elle pénaliserait injustement des automobilistes, des agriculteurs, des citoyens de toute sensibilité qui ne demanderaient qu'à pouvoir travailler et se déplacer librement. Ces critiques ne se limitent pas à des échanges d'arguments autour de la transition écologique. Elles donnent le ton d'un mouvement de fond contre les mesures de sauvegarde de l'environnement dans la législation, dans la réglementation, dans la vie économique. Un mouvement français et mondial que des chercheurs, des scientifiques du monde entier ont identifié et analysé depuis plusieurs décennies. Ce green backlash, que l'on pourrait traduire par retour de bâton anti-écologique, est un paradoxe. Il semble aujourd'hui se renforcer alors que les indices très concrets du réchauffement et de l'effondrement des écosystèmes se multiplient sous nos yeux. Alors, comment comprendre cette offensive anti-écologique ? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec notre invité Steve Agimont. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être avec nous en studio ce soir. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Toulouse et vous avez co-dirigé cet ouvrage aux éditions du Seuil, Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie. Merci d'être avec nous dans Questions du soir.
Les travaux de la 69 avancent au pas de charge ces jours-ci. Du petit matin jusqu'à la nuit, ces engins grignotent mètre après mètre pour terminer les terrassements d'ici la fin du mois.
Le rapporteur public s'est prononcé en faveur de la poursuite du chantier de l'autoroute A69.
Après plusieurs jours de débats enflammés à l'Assemblée, la loi du plomb a finalement été adoptée définitivement ce mardi.
Ce texte, c'est pas pour donner plus aux paysans français par rapport aux autres paysans européens. C'est pour leur donner les mêmes chances de réussir.
La lutte contre les ZFE, c'est un combat que je mène depuis 4 ans. Un, les ZFE ne servent à rien. Et deux, les ZFE sont un dispositif de séparatisme territorial et social.
Cet amendement met le doigt sur l'un des plus grands mensonges politiques de notre époque, celui qui consiste à faire croire que l'écologie passe nécessairement par l'immobilisme et le refus de tout aménagement. C'est exactement la ligne qui est défendue par l'extrême gauche qui oppose dogmatiquement le principe du ZAN à toute réalité territoriale et particulièrement en montagne.
Voilà un petit florilège par notre réalisatrice Margot Page de quelques événements marquants de cette année 2025. L'adoption à l'Assemblée de la controversée proposition de loi Duplomb, la remise en cause par cette même Assemblée de deux mesures environnementales majeures, le zéro artificialisation nette et les zones à faible émission, et la reprise du chantier de la 69 autorisée par la Cour administrative d'appel de Toulouse en mai dernier. Avec des précisions extrêmement importantes, la loi Duplomb a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Le sort des ZFE n'est pas encore complètement scellé. Le projet de loi de simplification de la vie économique doit encore passer en commission mixte paritaire. Quant au chantier de l'A69, il est à nouveau suspendu, mais en partie dans l'attente d'un jugement fin décembre. Steve Agimont, avec ces réserves que je viens de formuler, comment qualifier tout de même cette année 2025 ? Est-ce que c'était une année de recul environnemental en France ?
Alors oui, plutôt, avec tous ces exemples effectivement cités, et globalement une sensation aussi de grande désorganisation face aux immenses enjeux écologiques. Par exemple, quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais la relégation de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est extrêmement importante pour sortir des énergies fossiles, et qui est passé à l'as pendant l'été, reporté, sine die pour l'instant. Et ça, voilà, fait partie d'un contexte où d'un côté il y a des reculs, et de l'autre il y a beaucoup de thématiques qui ne sont pas abordées du tout.
Alors votre ouvrage s'intitule, je le disais en introduction, Green Backlash. Alors quelques mots d'explication peut-être sur cette idée du backlash, d'où vient-il ce terme, comment a-t-il été forgé, pourquoi l'appliquer aujourd'hui au combat écologique et au recul auquel nous assistons aujourd'hui?
Oui, alors dans l'ouvrage, Jean-Baptiste Fressos donne la première occurrence dans les années, enfin en 1970 aux États-Unis déjà. Mais sinon, le terme de backlash, il surgit du côté des sciences sociales dans les années 1990 pour essayer de comprendre ce qui se passe avec le rejet du féminisme aux États-Unis. Et donc le terme de backlash va essayer de qualifier cet ensemble de mouvements plutôt réactionnaires contre le féminisme aux États-Unis. Et on a choisi de le prendre prend de forger ce néologisme Green Backlash pour essayer de qualifier un ensemble de dynamiques qui nous semblaient caractériser le moment présent, dynamique à la fois de détricotage du droit environnemental, on a eu des exemples là au cours de l'année, dynamique aussi de relégation de la question écologique, dynamique de régression sur le front des financements par exemple d'un certain nombre d'agences de l'État et voilà, que ce soit l'OFB ou l'ADEME, dynamique de répression, dynamique d'agression. On a insisté sur les agressions verbales dans l'ouvrage, mais il y a aussi toute une série d'agressions physiques sur des militants, avec un excellent article.
Donc des agressions qui ciblent des défenseurs de l'environnement, des militants, des chercheurs, pour être précis.
Oui, oui, oui. Agressions physiques, alors pas encore de chercheurs, quoique des menaces, en tout cas des menaces, menaces qui ont pu aller très loin sur un certain nombre de chercheurs, du côté de l'agroécologie, du côté de la climatologie. Voilà, des discours ouvertement anti-écologistes qui s'expriment, et puis des politiques assez offensives, qu'il soit question d'extractivisme en France, autour des aménagements. Voilà.
Alors comment avez-vous procédé, peut-être par grand dossier, mais est-ce qu'il est possible d'amalgamer des attaques objectives contre l'environnement que vous venez de décrire, avec ces violences, parfois ces menaces contre les défenseurs de l'environnement, et ce qui peut relever parfois de la conjoncture politique, des coupes budgétaires, dans un contexte d'impératif de baisse de dépenses? C'est pas tout à fait la même chose que des attaques ciblées contre des scientifiques. Est-ce qu'on peut regrouper tout cela?
Non, mais on voit bien qu'il y a des priorités et qui pourraient sembler à un certain nombre de personnes, en tout cas, que l'écologie, que la question du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité sont absolument des sujets absolument primordiaux, et que faire des coupes budgétaires là-dedans, c'est vraiment sacrifier l'avenir. Voilà, donc c'est ce qui... Il y a des choix qui sont faits, tout n'est pas sacrifié. Quand on sacrifie prioritairement, avec un discours d'accompagnement derrière, l'écologie, c'est bien qu'il y a derrière une visée politique.
Alors, le paradoxe aussi, Steve Agimon, c'est qu'on vient de fêter les 10 ans de l'accord de Paris. On comprend aussi que l'opinion publique, en France en particulier, n'est pas précisément anti-écologie. Et pourtant, ce backlash aujourd'hui qui est à contre-courant d'une opinion majoritaire.
Oui, effectivement. Alors ça, c'est voilà, on a ce paradoxe où il y a un discours anti-écologiste qui s'exprime à l'Assemblée nationale, en partie au Sénat aussi en France, mais qui est un mouvement mondial, et des opinions publiques internationales, mais on le retrouve dans les sondages d'opinion en France, qui sont assez convaincus de l'urgence de la situation et de la dangerosité du statu quo actuel. Donc ce paradoxe, qui est doublé d'un autre paradoxe et qui était un peu le point de départ de l'article, c'est que bien au moment où la situation climatique et écologique commence à se traduire dans des catastrophes récurrentes, c'est à ce moment-là qu'un discours politique que des mesures politiques ouvertement anti-écologistes se mettent en œuvre, au contraire de ce qu'on aurait pu naïvement espérer dans les années précédentes et à la suite de l'accord de Paris, où on se disait aussi que quand les catastrophes seraient là, on agirait enfin à la pleine mesure des enjeux.
Dans ce mouvement que vous décrivez, Steve Agimon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une inertie? Les gouvernements, les systèmes économiques sont aujourd'hui engagés dans une voie qu'il est trop compliqué de réformer. Vous donnez l'exemple dans votre livre de l'idée que, selon laquelle notre économie est basée sur l'idée de profit futur. Donc comment faire dans ce contexte économique très contraint pour rendre accessible, désirable peut-être, une transition, j'ose pas dire une transition, des changements qui sont ceux que vous appelez de vos voeux.
Alors que j'appelle de mes voeux, disons qu'un certain nombre de scientifiques et de militants et d'observateurs appellent de leurs voeux. Alors effectivement, très clairement, il semblerait qu'une partie de ce Green Backlash vienne d'une forme de renonciation devant l'immensité des enjeux écologiques. Immensité des enjeux écologiques qui ont été documentés depuis les années 1970, qui sont devenus un problème public depuis les années 70, puisque sinon on pourrait revenir plus loin, et où il y a eu un choix de reporter au futur l'action autour de modèles économiques comme celui de William Nordhaus, par exemple, qui est devenu célèbre pour avoir modélisé le fait que bien il valait mieux attendre avant d'agir face aux problèmes climatiques et écologiques, parce que plus tard on serait plus riche et que bien finalement le coût de l'action serait moindre que dans les années 80-90.
Donc les réponses technologiques permettront peut-être d'apporter des réponses.
Et les réponses technologiques, des promesses venues du nucléaire en particulier comme backstop technologie, voilà, on aurait ces technologies en laissant faire l'innovation, en laissant faire la croissance, on aurait ces technologies qui arriveraient. Et On a des exemples très concrets de la dangerosité politique de l'action à la mesure des enjeux qui vient par exemple d'une des origines des crises agricoles actuelles qui se trouve aux Pays-Bas à partir de 2019 lorsque le gouvernement des Pays-Bas est condamné à agir contre les émissions pour diminuer les émissions d'azote qui viennent en grande partie de son agriculture intensive. Le gouvernement des Pays-Bas qui va rechigner à agir mais qui en 2022 va être contraint vraiment d'agir, essayer de faire une grande transition agroécologique de son agriculture et qui va affronter un immense mouvement agricole et qui s'accompagne d'une montée de l'extrême droite.
C'est important de mentionner cette temporalité, Steve Agimon, parce qu'on est à peu près contemporain du mouvement des Gilets jaunes en France. Il y a un point de bascule à cette période, en particulier la fin des années 2010.
Oui, parce qu'il y a une prise au sérieux par tous les gouvernements européens, semble-t-il, de la dangerosité de la situation. On reste dans des matrices idéologiques héritées du néolibéralisme, donc une action qui va être un petit peu timorée, une crainte à faire intervenir l'État.
Donc un secteur, pour être précis, un secteur agricole très mobilisé pour lutter contre un certain nombre de normes environnementales qui les mettraient en difficulté économiquement.
Oui, mais parce que le secteur agricole est pris dans des injonctions contradictoires d'à la fois devoir faire baisser les prix, réussir à gagner les marchés mondiaux, être compétitif partout et à appliquer des normes environnementales qui, si on les prend au sérieux, eh bien, vont à l'encontre de la compétitivité sur les marchés internationaux qui sont guidés par les énergies fossiles et les intrants chimiques de toutes sortes. Donc l'agriculture prise dans ces injonctions contradictoires a été une des têtes de pont de ce mouvement et ensuite en partie repris par l'extrême droite.
Alors je dois dire que la lecture de votre ouvrage, Steve Agimon, Green Backlash, est assez angoissante, puisque se dessine aussi un monde futur qui est le monde qu'on voit apparaître en ce moment sous nos yeux, dominé par des nouvelles technologies, un retour d'impérialisme qui ont partie liée contre l'environnement.
Oui, absolument. Donc, et ça, c'est un autre élément de ce Green Backlash, sans doute, c'est la remontée des impérialismes qui s'opèrent sur un fond de renouveau, de renouvellement de l'extractivisme et d'un secteur numérique qui est aujourd'hui est devenu un des fronts pionniers de l'économie contemporaine, un des fronts les plus dynamiques, un secteur majeur d'investissement qui commande aussi eh bien une reprise, un accroissement plutôt de l'extractivisme minier, puisque cette économie qu'on disait immatérielle est très matérielle, s'accompagne aussi c'est un capitalisme de plateforme.
Donc, qui pour être concret, ça veut dire que des serveurs, par exemple, l'intelligence artificielle, ça consomme énormément de ressources, y compris de l'eau.
Exactement.
Tous les GAFAM, on pourrait les citer, mais dans le détail. Mais voilà, tout ça, ça consomme, c'est pas du tout la promesse d'un avenir décarboné.
Exactement. C'est de l'eau, de l'énergie, des métaux, une quantité extraordinaire de métaux, une variété extraordinaire de métaux qui implique de rouvrir des mines et d'ouvrir des mines, d'accroître des mines un peu partout dans le monde et aujourd'hui jusqu'en Occident.
Et en quoi c'est complémentaire d'un retour des impérialismes précisément ?
Eh bien, parce que les impérialismes, et pour ça Donald Trump a été sans ambiguïté là-dessus, il y a besoin pour les économies qui se veulent dominantes de mettre la main sur ces ressources. La Chine l'a très bien fait depuis les années 1990 en réussissant à mettre la main sur le marché international des terres rares, par exemple, en faisant s'effondrer les prix de production, de transformation. Et aujourd'hui, les États-Unis essayent à leur tour de remettre la main sur un certain nombre de gisements qui leur permettront de dominer stratégiquement ces ressources essentielles pour l'avenir, essentielles pour l'économie, mais aussi pour l'armée. Pour l'armée et pour la transition énergétique.
Alors, dans votre livre, vos co-auteurs entrent dans le détail précisément de ce que représente ce Green Backlash dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique latine. Alors, on pourrait citer Jair Bolsonaro, Javier Milei, pour le cas du Brésil et de l'Argentine. Trump, le président américain, était évidemment un acteur de ce Green Backlash. Est-ce que leurs méthodes ont pu faire autorité dans les partis de droite extrême, de droite populiste au niveau mondial, y compris en Europe ?
Ouais, alors déjà il y a quelque chose qui relie ces différents gouvernements, il y a F. Darian Smith, politiste états-unienne, qui a travaillé là-dessus et qui montre que ces différents courants sont à la fois nourris d'une idéologie commune, mais aussi financés assez directement par les industries extractivistes, les industries fossiles, l'agrochimie. Et qui appuie finalement ces gouvernements qui ont une politique de régression du point de vue environnemental. Ensuite, ces mouvements, et en particulier les États-Unis et la Russie, qui est un acteur aussi qui joue son jeu dans l'ordre politique international, par un certain nombre de mots d'ordre, par une influence par les réseaux sociaux, par des modèles aussi de conquête de l'opinion par les réseaux sociaux, par la polarisation sur les réseaux sociaux, ces mouvements ont influencé les extrêmes droites européennes. Voilà. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui avec une sorte de défense des intérêts fossiles qu'on retrouve à l'extrême droite, et avec l'extrême droite, une droite qui essaye de courir après l'extrême droite pour récupérer les électeurs. Donc, on a cette influence internationale de cette extrême droite liée aux intérêts fossiles.
Alors, il y a une citation qui est extrêmement frappante dans votre livre, Steve Agimont. Vous citez un député Rassemblement National, Philippe Olivier, qui s'exprimait d'ailleurs sur France Culture il y a quelque temps. « Avec la victoire de Donald Trump, disait-il, le vrai clivage maintenant dans le monde, c'est celui qui sépare la puissance de la décroissance. L'Union européenne a choisi la décroissance. » Ça, c'est un programme politique.
C'est un programme politique du côté de l'extrême droite, mais qui a une ambiguïté, puisque au nom de la défense de la souveraineté, il y a aussi une défense d'une forme de statu quo contre contre cette transition écologique qui est réduite à la décroissance ici, mais qui finalement semble faire le jeu plutôt d'intérêts fossiles extra-européens, puisque ce qui est proposé là, c'est de continuer la dépendance aux énergies fossiles et un certain nombre de minerais qui viennent de l'ensemble du monde, mais qui ne viennent pas de l'Europe.
J'aimerais revenir vraiment sur ces mots, la puissance et la décroissance. Vraiment, cette opposition entre les deux, qui est présentée comme une alternative très, très binaire, elle porte, y compris peut-être dans l'électorat, dans l'opinion. C'est quelque chose que les gens peuvent accepter comme grille de lecture du monde.
Je n'en sais rien, là il faudra voir ce qui se passe pour les prochaines élections,
c'est un programme donc qui se présente comme le choix de la puissance contre quelque chose qui est présenté comme une faiblesse, donc
effectivement, et on rentre dans ce vocabulaire plutôt de la droite et de l'extrême droite, hein, qui est de renouer avec une politique de puissance contre des intérêts contre des intérêts qui voudraient affaiblir l'Europe.
France Culture, question du soir, Antoine Dulster.
L'écologie de salon, on en a assez. Il est temps de passer à une écologie incitative, une écologie d'équilibre qui va respecter l'homme et ses activités, qui va donner à tout le monde à la fois les moyens et l'intérêt d'agir bio, d'agir écologique, ouais. Parce que ça coûtera moins cher. Aujourd'hui, c'est du luxe. Et il faut combattre justement et rejeter cette écologie punitive portée par les Verts, parce que cette écologie ne fonctionne qu'à coup de taxes, de punitions, de restrictions, de sanctions, d'exclusions. Ça suffit. Les vieilles recettes du passé qui, justement, ne marchent pas, puisque l'environnement va plus mal aujourd'hui qu'il y a 25 ans, c'est justement que ça marche pas. Il est temps de passer à autre chose. Il nous faut une écologie humaine, une écologie réaliste, une écologie d'équilibre, une écologie incitative.
Alors, cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Frédéric Nius, candidat du mouvement CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, en 2007. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette idée, Steve Agimont, d'écologie punitive. Qu'est-ce qui se passe en 2007 avec l'apparition de cette notion? Pourquoi l'écologie serait-elle d'un coup punitive?
Disons que c'est un concept là qui va être promis à beaucoup d'avenir là, qui sort de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, mais c'est pas tout à fait un hasard que ça vienne de là, puisque Chasse, Pêche, Nature et Tradition a été un laboratoire d'idées plutôt anti-écologiques depuis les années 1980, très fortement dans les années 1990, avec des combats très forts, y compris physiques parfois, avec les écologistes et avec l'écologie de gouvernement. Et donc en 2007, Frédéric Nius va énoncer ce concept d'écologie punitive qui va être repris régulièrement par la suite. Par Ségolène Royal, et puis ça va revenir plutôt dans un certain nombre de mouvements autour de ce qui est vu comme de l'écologie punitive, et ce qui est résumé par Frédéric Nius, une écologie de la taxe, une écologie de la réglementation, de l'interdiction.
Et puis il y a d'autres termes, hein, alors pas très élogieux, hein, l'écologie serait liberticide, moralisatrice, inégalitaire, ce serait une surenchère de normes. Donc tout cela dans l'article de votre ouvrage consacré à cette écologie punitive, 50 nuances de clichés, c'est le titre de ce chapitre d'ailleurs par Guillaume Carbou et Laure Teuillère. Là on est dans un vocabulaire de la caricature en réalité,
oui,
mais qui devient du coup très clivant.
Oui, exactement. Donc ça sert à polariser, à réduire l'écologie à une petite forme de l'écologie, c'est-à-dire c'est essentiellement l'écologie telle qu'elle a été appliquée par les gouvernements successifs depuis les années 60-70, mais qui est assez éloignée de l'écologie politique qui se formalise aussi dans les années 70, mais plutôt en réaction contre cette écologie de gouvernement, et qui pointe un enjeu essentiel qui est l'enjeu de justice sociale. Et pourtant, quand on va voir surgir ce concept d'écologie punitive, c'est plutôt pour stigmatiser une écologie, c'est pour réduire l'ensemble des écologistes à cette écologie de gouvernement qui a pourtant fondé une critique, qui est à la base de l'écologie politique et qui renverrait finalement cette écologie punitive plutôt à une gouvernance néolibérale de l'écologie, pour reprendre un petit peu ce qui est dit dans le chapitre de Guillaume Carbou et L'Hortelière. Et donc une curiosité en tout cas de voir surgir ce concept, jamais vraiment défini depuis cette énonciation par Frédéric Nihous.
Donc il y a la défense claire, nette et assumée de certains groupes d'intérêts, la défense d'un mode de vie dont le changement serait trop coûteux, tout ça c'est peut-être un peu amalgamé. C'est assez différent parce qu'on parlait il y a quelques instants de la crise des gilets jaunes. Donc là on a des gens peut-être qui doivent choisir entre fin du monde et fin du mois, comme ça a été souvent dit, on a beaucoup parlé de cette formule. Donc là, il y a quelque chose de plus. En réalité, il y a quelque chose de l'ordre d'un combat idéologique.
Oui, il y a quelque chose comme un combat idéologique et qui est à la mesure aussi de la manière dont l'écologie, les thématiques environnementales d'une manière générale, sont entrées au cœur du jeu politique. Et il y a eu besoin pour un certain nombre de groupes d'intérêts qui ne voulaient pas le changement ou qui voulaient garder leur position de pouvoir, par exemple dans les zones rurales, à caricaturer cette écologie, la réduire à ce qu'elle n'était pas dans son énonciation, du côté de l'écologie politique telle qu'elle s'était structurée, pour entretenir un statu quo et balayer finalement les enjeux fondamentaux qui sont portés par l'écologie politique, les balayer derrière ce vocabulaire, cet anathème d'écologie punitive.
Il y a aussi derrière tout ça, Steve Agimon, un enjeu pour les écologistes eux-mêmes. Comment rendre ces changements désirables, accessibles? Comment peut-on se les représenter? Parce qu'à vous lire, les changements nécessaires à la survie des écosystèmes sont tellement énormes que, en réalité, ça semble presque inaccessible.
Alors, ils sont effectivement énormes, et ça revient à la question de tout à l'heure, c'est ce qui fait aussi la difficulté politique à s'en saisir. Ils sont énormes, mais il y a aujourd'hui toute une série d'expérimentations en cours qui mettent en acte finalement des transitions écologiques, mais qui sont absolument, qui sont partielles, très localisées, et qui mériteraient d'être accompagnées peut-être un petit peu plus par les pouvoirs publics. Mais évidemment, toutes ces initiatives qui essayent de fonctionner, qui expérimentent, il y aura toute une partie d'expérimentation dans les années à venir, si on menait cette transition écologique, eh bien, toutes ces expérimentations, elles sont balayées, par des expressions comme l'écologie punitive. Mais ce qui va devenir moins désirable peut-être à l'avenir, ce qui va devenir même assez terrible, c'est si on laisse faire la situation telle qu'elle est en train d'évoluer, si on laisse aller ce changement climatique et si on laisse aller l'effondrement de la biodiversité, y compris dans les zones agricoles, la dépendance de l'agriculture actuelle aux énergies fossiles et aux intrants chimiques qui sont eux-mêmes d'origine fossile, cette dépendance-là fait courir à l'agriculture européenne des risques immenses de pénurie dans les années à venir. Il y a une nécessité de transition et c'est peut-être ça qu'il faut rendre souhaitable. Mais je pense, en soi, si on prenait les enjeux au sérieux, cette transition, elle est souhaitable, elle est désirable.
Ce qu'on lit dans cet ouvrage, c'est que l'écologie est révolutionnaire. Il n'y a pas d'aménagement possible du système actuel fondé sur la croissance. Donc c'est une révolution qui s'impose à nous de toute façon. Comprendre les choses, parce que voilà, il y a une dimension très militante dans votre ouvrage que vous assumez tout à fait, et il y a cette idée de pas de négociation possible avec le système actuel, et ça c'était quelque chose qui est effectivement difficile à comprendre pour beaucoup de gens qui souhaitent pas changer de mode de vie et qui entendent peut-être l'aménager.
Alors, il n'y a pas de réponse toute faite. Enfin, effectivement, il y a un caractère engagé parce qu'il y a une situation qui est extrêmement préoccupante et on a voulu faire de cet ouvrage un ouvrage d'intervention dans le débat. Mais il n'y a pas de modèle tout fait. Et on peut très bien penser qu'il y a des modèles de réforme qui pourraient aussi accompagner les changements, accompagner les initiatives en cours. Il n'y a pas de modèle préétabli. Il y a juste un constat d'une impasse du système actuel qui fait qu'il va falloir effectivement trouver des voies de transition et pour cela accompagner un certain nombre d'initiatives qui sont déjà en cours.
Dans ce problème que nous essayons de comprendre à grands traits, quelle part joue aussi en Europe la structuration ou le manque de structuration du mouvement écologie, du mouvement de l'écologie politique? Alors en France, c'est assez clair avec les écologistes, mais est-ce que c'est une force qui est peut-être divisée entre une éthique de conviction, une éthique de responsabilité? Je ne sais pas, voilà, résumer cela, cette formule, mais en tout cas, il y a peut-être des choix militants qui sont compliqués entre accepter des responsabilités dans le système tel qu'il est et quelque chose qui est plus militant, effectivement, quelque chose qui est plus de l'ordre de la proposition d'une alternative.
Oui, mais plutôt que de les opposer, on pourrait voir la combinaison de ces différents courants. Et c'est sans doute par la combinaison qu'un changement aussi majeur que celui qui semble être nécessité par la situation actuelle, c'est par la combinaison des actions, à la fois des actions militantes de tous ordres, actions en justice, actions sur le terrain, et de l'écologie plus partisane, du jeu des institutions. C'est sans doute dans cette combinaison-là qu'une alternative pourrait se dessiner.
Merci Steve Agimont, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Toulouse et vous avez co-dirigé cet ouvrage aux éditions du Seuil, Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie. Merci à toute l'équipe de Questions du Soir, en particulier à Audrey Carme et Bruno Barada qui ont préparé cette émission. Cette émission a été réalisée par Margot Page, à la technique ce soir, Éric Perruchot-Triboulet. Bientôt 19h passées de 30 minutes sur France Culture.